Titi Quinquin, évidemment, ça s'est imposé pour moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette série. C'est une mini-série écrite et réalisée par Bruno Dumont. Donc, c'est la première incursion de ce cinéaste français dans la production télé, même si je considère cette série justement comme un film de Bruno Dumont à part entière, un film de cinéma. Donc, c'est un film, une mini-série dont produite et réalisée est diffusée sur Arte en septembre 2014, après une projection exceptionnelle à Cannes en mai 2014. Alors c'est vrai que quand la mini-série est passée, on a beaucoup dit qu'elle se situait entre Twin Peaks et True Detective. Et c'est vrai que la mini-série, disons, de Dumont se déroule, je rappelle un petit peu l'endroit, se déroule dans une petite commune côtière de la région de Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France, qui est le territoire élu par le cinéma de Dumont depuis ses débuts. Et donc, c'est le postulat de la série. Donc, c'est l'été, ça se passe en été, c'est les vacances. Et un couple de gendarmes, le commandant Van der Venden et son associé Carpentier, enquêtent sur une série de meurtres sordides. Une histoire de corps découpé qu'on retrouve dans les entrailles de vaches folles. Bon, ça, c'est le point de départ. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que, et évidemment, il n'est pas le premier, disons qu'une série qui repose sur des meurtres en série, c'est pratique. C'est évidemment assez idéal même, sauf qu'ici, ce qui fait tourner le cycle narratif, j'ai la caractéristique d'une série, c'est plutôt le constat toujours éberlué que ça ne tourne pas rond. Justement, que la boucle ne sera jamais bouclée autrement que dans une ultime ronde de l'insaisissable propre à donner le tournis. Alors, peut-être juste avant de passer la dernière séquence du film et donc le dernier plan, peut-être rappeler Dumont, c'est pas inutile. Bah, déjà, simplement dire que à propos de ce cinéaste qui prend de plus en plus d'importance dans le cinéma français, il y a beaucoup de mots qui reviennent, beaucoup de qualificatifs. Des mots comme mystique, la mystique et le mécanique, la grâce, le sacré, l'invisible et le mal également. C'est pas pour rien qu'on le considère souvent comme un des héritiers de Bresson, de Robert Bresson en particulier. Et c'est vrai que toutes ces histoires, depuis La vie de Jésus, son premier long métrage en 1996, se présentent, si on veut, comme des interrogations, des méditations, comme ça, très très sensibles sur la présence du mal. Du négatif, niché à la source d'un monde qui, de l'extérieur, apparaît comme un modèle d'équilibre et de perfection étale, et en particulier, donc, en l'occurrence, plus exactement, les lignes d'horizon des paysages du Nord, c'est-à-dire à chaque fois une sorte de bloc minéral inaltérable. Et c'est vrai que dans ces films, derrière les manifestations comme ça du mal, il s'agit de débusquer l'humanité, ou en tout cas des traces d'humanité, c'est-à-dire comme pour paraphraser Dumont, la possible qualité morale de l'individu, le sentiment de bienveillance pour autrui, la bonté. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est un cinéaste du mal, qui est obsédé par le mal, mais le mal non pas considéré comme dans son opposition manichéenne au bien, ni même en tant que cas de conscience soumis à délibération ou à examen, parce qu'on parle assez peu chez Dumont, sauf dans, effectivement, Petit Quinquin, une série et une œuvre de Dumont exceptionnelle, parce que là, pour la première fois, on y parle vraiment, c'est-à-dire que c'est une série qui est gorgée de dialogues. Donc pas du tout comme une opposition manichéenne, mais bien comme une force, le mal comme une force de réversion du monde, une puissance de dérèglement insondable, une secousse virale et mystérieuse qui se produit verticalement au cœur d'un monde horizontal, sans rien modifier, c'est là tout le mystère justement, sans rien modifier de son ordre ontologique, de ses soubassements. Alors, juste peut-être, parce que évidemment, quand on parle de la fin de quelque chose, et en particulier une série, c'est bien d'évoquer le début. Alors, juste, j'ai pas le temps, évidemment, de vous passer le début de Petit Quinquin, mais en tout cas, rappeler peut-être comment ça commence, Petit Quinquin, c'est-à-dire le début du premier épisode. Puisque le début de Petit Quinquin expose littéralement cette figuration active et perpendiculaire du mal. Il y a toujours cette idée de verticalité et d'horizontalité chez lui. Et dans le début de Petit Quinquin, qui est une sorte de début à la E.T. un peu, c'est tous ces gamins à vélo qui voient apparaître un hélicoptère qui apparaît comme une soucoupe volante, quelque chose d'un peu fantastique. Ce qui est intéressant, c'est que les lignes d'horizon boulonnaises se voient brutalement perturbées par l'irruption d'une ligne verticale en mouvement. C'est-à-dire, c'est la célèbre image d'une vache morte, hélicoportée, extraite d'un blocos où on l'a retrouvée. et qui contient, on le saura dans quelques minutes après, qui contient justement des morceaux de corps humain, du sang humain dans la bête, c'est-à-dire donc justement des tréfonds d'un sol fétide. Alors ce qui est intéressant, c'est justement le câble. On voit l'hélicoptère, on voit le câble qui porte justement cette vache, et ce câble effectivement vertical apparaît comme une fissure dans le cadre tranquille, horizontal, calme et voluptueux de cette petite commune côtière. Alors il y a deux. Excusez-moi, je vais assez vite parce que la séquence que je vais vous passer dure 6 minutes. Et il me semble impossible de parler de la dernière image, du dernier plan, sans parler de la séquence, enfin en tout cas de ce qui précède et de ce qui amène ce plan. Peut-être qu'il y a deux petites. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux répliques récurrentes, j'irais, dans la bouche du commandant Van der Weyden, qui est joué par Bernard Pruvot, qui est jardinier dans le civil. Ces deux répliques, c'est « C'est quoi ce bordel ?» Et il dit ça tout le temps, pendant les 4 épisodes. Et « On est au cœur du mal, Carpentier », avec une variante « C'est le diable en personne hein, ». Donc il y a toujours cette idée du mal. Alors je trouve ces deux répliques absolument géniales, très 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 au cœur, disons, du projet de Dumont. D'abord, c'est quoi ce bordel? Alors ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce bordel? À chaque fois qu'il parle de ça, on a le sentiment qu'il tente en vain hein, de définir et de comprendre ce qui dérègle toutes les échelles sur lesquelles se fonde précisément le monde représenté, hein, un monde d'apparence stable, hein, échelle morale et physique à chaque fois. Hein. Et je dirais qu'en effet, c'est quoi ce bordel? C'est la grande question métaphysique du film. C'est-à-dire que il ne s'agit pas tant, ça j'y reviendrai, effectivement, de résoudre l'énigme policière, de trouver le coupable, même s'il s'évertue à le faire, en échouant souvent de manière absurde. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pourquoi ce monde-là se dérègle-t-il? Hein, c'est ça la grande question métaphysique du film. Pourquoi ce monde stable, physiquement équilibré, parvient quand même, sans modification apparente de son ordre, à se retourner complètement dans un sens absolument insaisissable. Quant à la deuxième formule, c'est-à-dire « on est au cœur du mal, Carpentier », là, la question, elle est simple, c'est que le mal, finalement, on est au cœur du mal. C'est-à-dire que être au cœur de ce territoire, c'est être au cœur du mal. Donc le mal serait-il finalement le terreau de ce monde, jusqu'ici tranquille, son référent, son ordonnée, sa clé manifeste, au cœur du mal, comme au cœur d'un territoire dont il serait finalement le nom trop longtemps refoulé. Le mal serait-il finalement l'agent de ce joyeux bordel? Voilà. Et on pourrait répondre, parce que je parlais de Bresson, hein, voilà, on parle de Dumont, parfois abusivement, mais en même temps c'est pas totalement faux, comme d'un héritier de Bresson, et donc à la question « c'est quoi ce bordel ?», on peut dire « le diable probablement hein, », d'une certaine façon. J'ajoute aussi que le bordel, c'est aussi le garant d'un comique, hein, au croisement de la tragédie et de la farce, puisque c'est une série, et donc un film de 3h40 en tout. C'est effectivement le premier film ouvertement comique et tragique, enfin comique et tragique de Bruno Dumont. Et il confirmera l'essai avec Maloute, sorti cette année, qui reprend effectivement toutes ces trouvailles de Petit Quinquin. Petit Quinquin, évidemment, c'est pour beaucoup, hein, ça a été un des événements. Un des plus grands événements de cinéma et de télévision de 2014. Alors on a beaucoup dit qu'effectivement que cette série avait un statut particulier dans l'œuvre de Dumont. On a dit que c'était vraiment très très différent. En même temps, Petit Quinquin reprend d'une certaine manière, enfin rejoint l'humanité, le film, et l'humanité tout court aussi, si on verra. L'humanité, qui est le deuxième film de Bruno Dumont, qui date de 99, puisque l'humanité était aussi un film sur une enquête, hein, une enquête policière. Sur le viol et le meurtre d'une petite fille à Bailleul, dans les Flandres. Simplement, dans l'humanité, l'enquête policière se voyait doublée assez rapidement par une quête spirituelle. Hein, il y avait l'enquête policière et la quête spirituelle menée donc par ce personnage d'inspecteur, Pharaon de Winter. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler plus longuement. Et donc, Petit Quinquin reprend cette idée, on se rend bien compte que la question de Petit Quinquin, ce n'est pas qui a tué, hein, la vraie question c'est quoi ce bordel, qui a tué ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas la question. Je dirais que corrélativement, la question c'est quoi ce bordel, on pourrait dire comment remettre le monde à l'endroit. Hein, voilà, le bordel c'est le monde à l'envers. Donc, finalement l'enquête de ce commandant se tiendrait plutôt sur cette question-là, hein, au niveau de cette question, comment remettre le monde à l'endroit, comment mettre fin au bordel. Alors même si, comme dit le commandant, une enquête, c'est du sérieux, on se rend compte très vite que le but de la série n'est pas de résoudre l'énigme policière d'épisode en épisode, mais de se confronter à l'énigme tout court, scène après scène. L'énigme n'est pas dans les meurtres, mais dans l'opacité du sens, là où ils ont été commis. Et je cite Pacôme Thielman dans un texte qu'elle avait publié dans les Cahiers du cinéma en décembre 2013, finalement dans la négation de la signification univoque des événements. C'est un texte qu'elle avait publié à propos du carnavalesque, la question du carnavalesque perçue comme une essence de l'esprit français. Et c'est vrai que c'est ça qui est important. C'est un film totalement énigmatique. Je dis film pour pas dire série, mais bon, vous avez compris. C'est un film, une série qui compte entièrement sur l'énigme, sur l'énigmatique. Et comme dit Carpentier, l'associé du commandant au début de Petit Quinquin, en découvrant au début la vache morte, hein, il disait ceci, mais c'est pas possible. Donc il la voit, effectivement, on extrait cette vache d'un blocos. On se dit, mais comment elle a fait pour arriver là? Et donc il dit ceci, Carpentier dit, cette bête n'a pas dû arriver là toute seule. Il n'y a pas d'accès. Enfin, si, il y a des ouvertures, mais elles sont inaccessibles pour elle. Et je pense qu'on pourrait rattacher cette phrase-là au spectateur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça. Hein, c'est-à-dire, voilà, cette bête n'a pas dû arriver là toute seule. Il n'y a pas d'accès. Hein, effectivement, il n'y a pas d'accès. Il y a des ouvertures, mais elles sont inaccessibles pour elle, donc peut-être aussi pour nous. Donc, c'est d'une certaine manière, cette phrase-là, au début de la série, est un peu le programme, je dirais, à la fois intuitif et théorique du film, de la série. Du coup, comment conclure une série policière sans s'acquitter de la convention d'une résolution de l'enquête, c'est-à-dire trouver le coupable. Hein. À la fin, c'est très drôle, c'est ce que vous allez entendre là, tout s'annule car tous les suspects sont assassinés. Alors par qui, on n'en sait rien, nul ne le saura, et encore une fois, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour Dumont est de boucler la boucle par la mise en place d'un circuit de regard et de déplacement selon la logique d'une ronde indéfinie, c'est-à-dire, et c'est assez retors et en même temps très limpide, faire une dernière fois tourner en rond le sens et les personnages d'un monde qui, lui, ne tourne pas rond. Voilà. La fin de la série, donc c'est la fin du quatrième épisode, hein, puisque ce sont quatre épisodes. On n'a toujours pas trouvé le coupable, les cadavres s'amoncellent, le commandant et son associé Carpentier sont bien embêtés, évidemment, ça n'avance pas. Et donc là, on se retrouve dans la cour de ferme, qui est un des lieux principaux de la série, c'est là où vit le petit Quinquin pendant ses vacances. Quoi qu'on pense de Bruno Dumont, on peut quand même admettre l'évidence, c'est que c'est un très grand metteur en scène. C'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, sait découper un espace et disposer des personnages. Effectivement, donc là, c'est la fin de la série, c'est la dernière séquence, c'est la dernière image. Et ce qui est important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une fin tournée vers l'infini, vers le non-défini. Donc, c'est une fin qui n'a pas de fin. Enfin, c'est une fin sans fin. C'est une fin. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, qui est vraiment tourné vers le non défini. C'est-à-dire que c'est une fin à la fois pleine et vide. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Tournée, oui, parce qu'il y a dans cette dernière séquence, je parlerai évidemment du dernier plan. Il y a dans cette dernière séquence une référence directe au cercle et à son centre. Qui renvoie, pour ceux qui ont vu la série et qui ont en tête justement le début de la série, qui renvoie justement à la forme circulaire du blocos. C'est-à-dire que le blocos, où on extrait la vache morte au tout début, frappe effectivement par sa forme circulaire. Et la fin se termine sur un cercle. Hein. Donc la fin se boucle bien, si j'ose dire. Termine le cercle. Donc ça se termine sur le cercle et son centre, c'est-à-dire s'il y a une référence à une zone délimitée autour de laquelle tout tourne, d'où la référence au cercle. Hein, ça commence par Danny, hein, l'adolescent handicapé mental, qui tourne sur lui-même trois fois, et le commandant qui déclare tout de suite que tout tourne autour d'ici. Hein, donc la fin, effectivement, la dernière séquence explicite, hein, la figure du cercle et le fait qu'on tourne autour du cercle. Et qu'en effet, le problème, c'est-à-dire je dirais, le drame comique des personnages, c'est d'avoir passé les quatre épisodes à tourner autour d'un monde qui ne tourne pas rond. Voilà. Donc c'est un petit peu normal, en effet, qu'à la fin de Petit Quinquin, on retrouve ça. Alors tout se resserre ici, effectivement, façon de parler, hein, pour cet agent de la loi sans dessus-dessous. Alors on peut parler d'un cercle infernal si on veut, c'est-à-dire qu'on est vraiment au centre, ici, dans la cour de ferme, au centre du cercle infernal. Un cercle effectivement physique, hein, avec la terre aigre. C'est très beau, très très beau plan. Dumont, c'est à la fois un cinéaste spiritualiste et matérialiste. Il est les deux. Donc on a effectivement ce plan où de manière totalement inexplicable, a priori, le commandant prend la terre et renifle la terre en disant « oui, c'est une terre aigre ». Donc effectivement, on est dans la terre au centre du cercle infernal, et puis évidemment un cercle métaphysique, puisqu'il est il est explicitement fait mention de l'ange exterminateur et des forces démoniaques. Alors je ne sais pas s'il dit des ondes démoniaques, des zones du démon. Quand il dit à Carpentier, on est dans les zones du démon. Donc on est c'est un cercle à la fois physique et métaphysique. Et le cercle ici, et c'est en cela que c'est extrêmement poignant cette fin de film, c'est que le cercle ici, c'est la figure maîtresse du sacré. C'est-à-dire que le cercle, c'est la figure d'une unité improbable, obtenue morceau par morceau, en l'occurrence là, par le découpage, un véritable découpage de regard via la disposition des personnages dans la cour de ferme, et incarnée, cette unité improbable, par l'étreinte. L'étreinte, c'est l'événement ultime chez Dumont, c'est-à-dire la traversée du sentiment, plus exactement de l'amour, parce qu'on n'est pas du tout dans le sentiment amoureux chez Dumont, on est dans l'amour, directement. La traversée donc de l'amour d'un corps à l'autre. Donc là, en l'occurrence, du corps du petit Quinquin à celui d'Ève, sa petite amie. L'étreinte est toujours complétée par un regard au loin, dans une direction inconnue, et ainsi, elle représente, cette étreinte, ce moment sacré de contact retrouvé in extremis avec un sentiment de totalité, pour le coup, un sentiment de totalité et de plénitude grâce au passage de l'amour comme sensation, c'est-à-dire comme force de dépassement indescriptible. Et là, très très clairement, Dumont rejoint Michel Léris lorsque Michel Léris parle du sacré à l'état naissant dans un livre qui s'intitule « L'homme sans honneur, note pour le sacré dans la vie quotidienne ». Michel Léris parle du caractère d'intimité du sacré, allié à son caractère d'étrangeté. C'est la manifestation du sacré, justement, comme sentiment, pas du tout comme rituel, le sacré comme sentiment dans un monde profane, dans l'ordre quotidien des choses. Donc, c'est-à-dire le sacré pas du tout, en dehors du religieux, en dehors des dogmes religieux. Michel Léris dit ceci, c'est dans le sacré que l'on est le plus soi et le plus hors de soi, parce qu'on se met alors sur le plan d'une totalité. Et donc c'est pour ça qu'il parle du sacré à l'état naissant. Pour Léris, cette définition du sacré recoupe la notion d'instantanéité, et il apparaît justement du coup par bribes, étincelles, épiphanies, qui surgissent sur le terrain bas et lourd du réel. Et donc c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que là, l'amour qui passe dans l'étreinte, c'est vraiment une force qui passe d'un corps à l'autre, est confirmée par justement cette espèce d'attestation lumineuse à la fin, où on a Dany qui regarde le soleil et qui donne d'un seul coup, enfin produit d'un seul coup une image un peu épiphanique. Donc on est vraiment dans cette perspective du sacré, à la fois comme cercle obtenu et via l'étreinte comme passage de l'amour d'un corps à l'autre. L'amour passe tel un ange et on s'incline à le regarder. Il y a ce moment absolument stupéfiant, moi je ne m'en remets à jamais, c'est lorsque vous avez le commandant qui regarde le Carpentier à côté de Dany, qui se retourne, et d'un seul coup il met la main sur le cœur, dès qu'il voit Petit Quinquin et Ève en train de s'enlacer, en train de s'étreindre. Je trouve ce plan absolument magnifique, et là il s'incline, il a la main sur le cœur à ce moment-là. C'est-à-dire que cette image-là de l'étreinte du Petit Quinquin et de Ève est pour lui le comble d'une, j'ose pas dire transcendance, mais en tout cas de quelque chose qui relève du sacré, d'une forme de solennité absolument inexplicable et indescriptible. Et ce geste de la main sur le cœur est quelque chose d'extrêmement puissant, qui d'une certaine manière valide la dimension sacrée de l'étreinte. Et puis bon, évidemment, il y a Bach, une espèce de cantate de Bach à la fin. Bon. L'étreinte, c'est ce sur... Alors, je précise une chose, c'est que l'étreinte... J'ai un peu de temps encore. Je dépasse un peu là. L'étreinte, c'est ce sur quoi s'achèvent bien des films de Bruno Dumont. Adévitch se clôt sur une étreinte. Flandre aussi, le dernier plan de Flandre, c'est aussi les deux personnages, le garçon, la jeune fille et son garçon qui revient de la guerre, etc., qui sont sur le sol, qui viennent de faire l'amour et qui s'étreignent effectivement. Et au comble, enfin je dirais au summum de cette étreinte, le garçon dit enfin je t'aime. Donc c'est par l'étreinte effectivement que l'amour peut véritablement se déclarer. L'humanité, le dernier plan de l'humanité, c'est pas une étreinte, mais c'est quand même un dernier plan qui arrive au terme d'une étreinte dans la cuisine entre Pharaon de Winter et Domino. Et ce qui est intéressant chez Dumont, c'est que l'étreinte arrive toujours au terme d'une traversée du négatif. de l'intolérable, de l'ignominie, hein, c'est-à-dire la chose à sauver au terme de cette épreuve-là. Et chez Dumont, je dois dire que là, il y a quelque chose qui peut-être le relie à Bataille, c'est que chez Dumont, le réel, c'est l'intolérable. Hein. Face au mal, face à l'intolérable, comment travailler la conscience de soi? Comment peut-être l'atteindre? À force d'ingérer l'intolérable, pendant les 4 épisodes, sans le digérer, puisqu'on ne le comprend pas, hein, c'est tout le sens de la série, hein, on n'arrive pas à l'élucider, arrive le moment où la grande force de contemplation absorbe et résorbe, toute notion de culpabilité, de péché, de rachat, pour accéder à la conscience universelle par le passage de l'amour et de l'humanité, hein, un passage, je rappelle, épiphanique et lumineux. Hein. Et la contemplation pour Bruno Dumont, c'est quoi? C'est étreindre par le regard. Hein. C'est tout embrasser, c'est ça la contemplation. Donc là, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a l'étreinte physique, incarnation absolue de l'amour, et puis on a l'étreinte par le regard via la contemplation, c'est-à-dire, et qui est d'une certaine manière décuplée par justement les deux regards, celui de Dany et celui, le dernier plan, de Petit Quinquin. Il n'y a pas de rédemption ici, ce n'est pas du tout son propos, puisque ni la faute ni son assignation ne sont désignées, il n'y a pas de coupable à la fin, simplement la manifestation d'une plénitude sacrée dans l'incomplétude du sens. Je pourrais provisoirement conclure là-dessus, mais... Voilà, et puis, et ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est quand par exemple... La complétude du sens, quand il part, quand le commandant dit « oui, je rigole », etc., on ne sait plus trop si on doit rire, pleurer, etc. Moi, personnellement, j'ai plutôt la gorge serrée à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et au tout début, quand j'ai envoyé l'extrait, à un moment donné, il parle de Rubens. Parce que dans le plan d'avant, il est complètement émerveillé, il est ému, hein, comme il dit. Il est ému en caressant la croupe d'un cheval blanc, c'est le cheval qu'on a vu là. Il dit « ah, ça m'émeut », et il dit « ah, ça me rappelle un peintre flamand ». Ah, comment il s'appelle déjà? Et puis, quand il arrive dans la cour, il dit, ah, ça y est, ça me revient, c'est Rubens. Bon. Et donc, il a la solution. C'est-à-dire qu'il a un problème, et en fait, la seule solution qu'il trouve, il la trouve seul, en fait, et c'est Rubens. Maigre consolation pour quelqu'un qui a passé les 4 épisodes, encore une fois, à chercher un coupable, finalement, qui n'est pas coupable, enfin, qui s'est complètement évaporé, puisque, encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas l'enquête, mais la quête. Je vous remercie, hein, mais c'est vraiment...